Vous êtes bien sûr libre, une série d'émissions proposée par le collectif Atarik. Retrouvez l'ensemble des podcasts, mais aussi les contributions et articles sur notre site collectif-atarik.net. Alors aujourd'hui, on vous propose une discussion à trois, ainsi que des digressions autour du texte de Pierre Kropotkin, La morale anarchiste. Alors pour des raisons techniques, le son enregistré comporte des coupures et des sauts qui n'empêchent pas de comprendre la discussion, mais qui peuvent s'avérer gênants. Nous avons quand même décidé de publier ce podcast dans la mesure où le propos général est compréhensible et le sujet est suffisamment riche pour ne pas le laisser dans nos archives. Nous vous prions de nous excuser toutefois pour l'inconfort d'écoute occasionné. Bonne écoute donc.
Et jouer sur ces contradictions permet de voir que une morale populaire, un peu dans un sens d'une assabia, il peut y avoir une éthique populaire qui se fonde dans la lutte.
C'est qu'on arrive à un problème, c'est qu'on pourra plus, on ne peut plus poser la possibilité d'une morale universelle. Parce que si c'est toujours le plaisir qui vient en premier, tu comprends que le plaisir, c'est toujours quelque chose d'individuel, de subjectif.
On donne des moyens pratiques à l'individu de se transformer et c'est ça qui crée une société. Et c'est absolument l'opposé du marxisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un...
J'ai fait une sadarpa, j'ai quelque chose, et en fait, la recherche dans les discours religieux, souvent, c'est la question du désintéressement. Faites le, donner avec votre main droite sans que votre main gauche le sache. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu une recherche comme ça du désintérêt. Alors qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que non, en fait. Alors, bienvenue pour cette nouvelle revue de lecture proposée dans le cadre du podcast Atarik. Cette fois, on vous propose de discuter la morale anarchiste de Pierre Kropotkin, sans faire de tour par la biographie. On va laisser balayer l'essentiel des problématiques là, abordées dans le texte, les grandes questions, et peut-être commencer à répondre à dans quelle mesure il est possible de formuler une morale qui ne soit pas religieuse. Dans quelle mesure c'est souhaitable, dans quelle mesure ça peut résonner avec nos défis nous actuels, que ce soit dans le cadre militant, dans le cadre des parcours spirituels individuels, etc. Du coup, je propose à Saber de commencer le commentaire.
Ouais,
éventuellement, ouais.
D'accord. Non, comme je disais tout à l'heure, donc en aparté, le premier point, il me semble que Kropotkin commence d'abord par faire en fait une critique de l'hypocrisie, de la morale qui est établie dans la société de son époque. Donc je pense que le livre, c'est d'abord en fait une critique en fait de l'hypocrisie de la morale, mais aussi un tour d'horizon des théories morales en circulation à son époque, et il en fait la critique avance poser les fondements d'une morale anarchiste. Donc voilà, c'est vraiment de manière générale. Mais pour reprendre donc ce premier point, l'hypocrisie de la morale, moi je pense qu'il y a une critique vraiment acerbe, dans le sens où c'est ça, c'est que la morale qui est établie à son époque, elle est hypocrite parce que ceux qui sont chargés de la dicter sont finalement, en fait, c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais, tu vois. Alors je vais reprendre peut-être un passage du texte, pour moi est assez parlant et éclairant là-dessus. Il dit... pendant ces périodes de sommeil, on discute rarement les questions de morale. Les pratiques religieuses, l'hypocrisie judiciaire en tiennent lieu. On ne critique pas, on se laisse mener par l'habitude, l'indifférence. On ne se passionne ni pour ni contre la morale établie. Donc, Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, lui, il veut montrer le caractère hypocrite de la morale qui est établie, et pour montrer aussi que, encore une fois, ceux qui sont chargés de la dictée ne s'y plient pas eux-mêmes. Et en fait, quand on regarde aussi, c'est que ceux qui la dictent, donc les religieux et l'homme de loi, font partie aussi d'une certaine classe sociale, donc qu'on pourrait... voilà, dire finalement c'est la bourgeoisie, et en critiquant la morale, celle qui est établie et qui est hypocrite, c'est aussi une manière de critiquer la bourgeoisie. Mais après, je sais pas aller plus loin là pour le moment, aller plus loin que ça, mais en tout cas. Et par contre, alors voilà, c'est ça, c'est que toi, Antoine, t'avais relevé un truc intéressant là-dessus, c'est que lui il dit plus. La morale est, plus on critique cette morale qui est établie, plus le niveau moral s'élève. Et ça, là-dessus, c'est intéressant. Tu disais, en fait, il y a une dialectique. C'est-à-dire que je pense que la morale que souhaite apporter Kropotkin, elle vient en contradiction avec cette morale qui est établie. Et donc, il y a un rapport contradictoire qui s'établit entre... celle qui est établie et celle qu'il apporte lui. Tu comprends ?
C'est intéressant du coup. La phrase où il dit que c'est la critique de la morale existante qui relève le niveau moral est importante là-dessus parce que du coup il n'y lit pas totalement l'ancienne. Souligner la critique, c'est aussi travailler sur l'hypocrisie et ça fait émerger quelque chose de nouveau. Et c'est important parce que du coup... Je disais dialectique, mais la morale, l'hypocrisie de la morale est très contradictoire parce qu'à la fois elle est le socle, elle est l'héritage de là où on en arrive, comment on arrive à considérer les relations interpersonnelles à une époque, et en même temps son hypocrisie révèle, comme tu as dit, le conflit entre ceux qui font appliquer la morale et ceux qui la subissent. Or, la critique de la morale. En travaillant cette contradiction, elle révèle directement que la morale a un rôle, une valeur universelle. Elle est pour tous. Et donc, on est obligé de la décrocher des mains de ceux qui la tiennent. Et donc, c'est plus une négation de la morale, c'est, dans sa critique, qui révèle les contradictions d'une époque, parce que la morale qu'on a posée, qu'on impose, qu'on force, elle force les relations sociales dans un sens. La critique révèle ce sens-là, et en même temps, la critique s'appuie sur ce qu'il y a d'humain, d'anthropologique, comme raison d'être à cette morale, qui peut être récupérée par tous si ça soulève un côté positif d'une nécessité de la morale. Puisque son but, c'est de relever le niveau moral de tout le monde. Et jouer sur ces contradictions permet de voir qu'une morale populaire, un peu dans un sens d'une asabia, il peut y avoir une éthique populaire qui se fonde dans la lutte contre les forces morales d'une époque, dans la lutte contre la classe dirigeante, une morale meilleure pour tout le monde. Comme la révolution abbasside. La révolution abbasside... fait dire que l'islam n'est plus accessible à tous.
Est-ce que tu peux juste rappeler la période ?
Quand l'islam s'est étendu à se convertir, l'islam devient la propriété des Arabes et d'une Syrienne un peu au pouvoir. Toutes les régions sur les marges, que ce soit l'Égypte ou que ce soit le Rorassan, la Perse, ne peuvent pas s'intégrer dans la société parce qu'ils sont interdits de conversion. Et donc, cette revendication de reprendre l'enjeu moral pour tout le monde va transformer la société et lui permettre de devenir une société. Là, on voit bien que c'est pas une critique, c'est pas un rejet de toute valeur morale, c'est de dire cette morale, elle est pour tous, donc vous ne pouvez plus la voir, donc le pouvoir ne peut plus vous appartenir. C'est double. Vous ne pouvez plus édicter la loi morale et vous ne pouvez pas garder le pouvoir. Et donc, on casse l'ancienne structure en représentant les liens interpersonnels qui étaient faits sur les marges et qui deviennent une valeur pour tous.
Après, il faut peut-être en venir peut-être au... Parce que je ne sais pas si tout le monde Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas forcément lu le texte, mais il est disponible sur Wikisource assez facilement. Enfin, on le trouve assez facilement un peu partout. Le projet, c'est de Kropotkin, dans la lignée, on va dire, du socialisme scientifique, quoi. C'est d'essayer, et puis dans la lignée aussi des philosophes des Lumières, en fait, c'est de dire, on a un problème majeur aujourd'hui à repenser en fait les rapports entre les gens, enfin, la question de la justice sociale, etc. Sauf qu'on a des systèmes religieux qui sont des alliés en fait des bourgeoisies, des alliés des exploiteurs de manière générale dans nos sociétés. Dans la mesure où ils portent le discours religieux et la morale, comment est-ce qu'on fait une critique qui jette pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et là, il y a un passage évocateur là, dans la morale anarchiste, à mon avis, qui, pour comprendre en tout cas le moral, qui est pas un projet qui est un projet anticlérical, mais qui est pas un projet anti. C'est pas en frais, quoi. Non, c'est pas en frais qui est là à dire sans arrêt à vouloir faire une critique du tout religieux où il mélange un peu tout en faisant des procès en cohérence à peu près à tout le monde. Alors qu'en fait, là, c'est clair chez Kropotkin, encore plus chez Bakounine, dont on pourra faire un lien aussi. Mais là, il y a un passage, par exemple, qui est évocateur, toujours dans la morale anarchiste, là, qui est le texte qu'on commente actuellement. Après, une question de système religieux. Donc il dit, par exemple, voilà, en jetant par-dessus bord la loi, la religion, l'autorité, l'humanité reprend possession du principe moral qu'elle s'est laissé enlever afin de soumettre à la critique et de le purger des adultérations dont le prêtre, le juge et le gouvernant l'avaient empoisonné et l'empoisonne encore. Donc il y a un détournement des principes moraux potentiellement chez Kropotkin qui dit bien il y avait un fond en fait qui était peut-être même de l'ordre du révolutionnaire, hein, ça, on peut laisser ça à la discussion. Et donc tout de suite Kropotkin enchaîne, mais nier le principe moral parce que, c'est-à-dire sous-entendu juste parce que l'Église et la loi l'ont exploité, hein, Michel Onfray, quoi, hein, serait aussi peu raisonnable que de déclarer qu'on ne se lavera jamais, qu'on mangera du porc infesté de tri, je pense à des bactéries ou des choses comme ça qui étaient dans le porc, et qu'on ne voudra pas de la possession communale du sol, parce que le Coran prescrit de se laver chaque jour, parce que l'hygiéniste Moïse défendait aux Hébreux de manger le porc, ou parce que la charia, le charia, c'est un peu le style 19e, hein, le charia, le supplément du Coran, veut que toute terre restée inculte pendant 3 ans retourne à la communauté. Donc là, c'est une référence explicite en fait à la pratique de Roma, la collectivisation des terres. Et donc là, c'est ce petit passage, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain simplement parce que les religions ont détourné les messages originels. Donc voilà, donc il y a un projet qui sous-tend tout le travail de Kropotkin, mais aussi de tous les philosophes anarchistes, puisque c'est plutôt leur marotte. Antoine, tu nous diras si c'est le cachet des marxistes, hein, mais c'est l'idée de en fait, produire une morale qui soit plus religieuse, et qui, en fait, c'est un peu monté en gamme en termes d'universalisme, en disant, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même des principes universels qu'on peut construire, il y a bien quand même quelque chose qui est de l'ordre de la recherche d'un principe transcendant. Les philosophes ont la question de ce qui fait bouger les gens, en fait. Hein. Ce qui fait bouger. Alors on va en voir, mais en tout cas, voilà, petit passage sur critique de la morale religieuse. Quoi. Voilà.
Après, il n'y a pas que la morale religieuse.
Oui.
C'est-à-dire qu'il parle aussi quand même des juges, des hommes de loi.
Oui.
Qui eux aussi sont finalement en fait dictent la loi et donc dictent une morale tout simplement, parce que ils sont dépositaires d'une autorité et donc l'individu en société doit respecter certaines obligations, doit se conformer à la loi et ces obligations finalement elles se rapportent à une morale, en fait. Donc, l'idée, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas que, je pense, les religieux qui sont visés par Kropotkin, mais aussi par les hommes de loi.
Ouais, les principes qui vous gouvernent la justice, mais ça, c'est... Ouais. Bah, dans le cadre des républiques, ou alors même dans les... Là, Kropotkin, c'est quand même un noble. Oui. Il a une formation forte en sciences. Et il se pose la question du il trahit sa classe quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien.
Ouais, ouais.
Mais il a une formation philosophique. Et je pense qu'il est des pour le coup, des Hegeliens. Alors, c'est là où on va peut-être trouver une différence de tradition philosophique. C'est que, en fait, il me semble, de ce que j'ai la démarche marxiste, c'est de dire, ben non, mais en fait, les Hegeliens, en fait, sont en train de nous perdre dans des principes moraux. En gros, ils posent la question du bien et du mal. Éventuellement, exploiter les plus pauvres, c'est pas bien. Voilà. Comment est-ce qu'on produit une morale qui est capable de nous dire, nous donner des principes positifs ou négatifs, ou raisonner de manière en mal ou en bien. Et comment est-ce qu'on pourrait, projet philosophique, produire un discours moral qui soit plus issu, pour le coup, des traditions religieuses, mais de ce qui nous est permis par les outils hegeliens. Parce que c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et en fait, tout le truc de Marx, c'est de dire, non, en fait, on peut se dégager complètement de la question morale et faire une scientifique des rapports entre les gens. Et à ce moment-là, on pourra y compris agir. Et on pourra instaurer plus de justice sociale. Simplement en disant, ben voilà comment est la société, de manière scientifique.
Là, par rapport à ça, ce qui va déterminer aussi un changement radical chez Marx par rapport à Hegel, c'est la remise en cause de l'État, qui est très important pour Hegel et que Marx veut dissoudre. Et donc, quand on dit l'État par rapport à la morale, on voit que l'État qui est porteur d'une morale est une structure sociale. Et dans le marxisme, on va rester sur une vue qui est très théorique et pratique, qui va chercher à comprendre les relations dans la société et comment la lutte des classes et la division du travail produit une morale et produit une idéologie qui va être celle de l'État et comment cette idéologie dominante va s'en reste. Donc on est dans la... C'est pas contradictoire avec ce que dit Kropotkin juste avant, mais j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas recherché. Mais j'ai pas... Il y a Lukács qui voulait écrire une éthique après son esthétique. Il n'a pas eu le temps de la faire. Il a préféré faire son ontologie pour continuer à se brancher sur le réalisme. J'ai pas connaissance d'autres projets d'une éthique dans le marxisme, mais c'est peut-être une inconnaissance de ma part. Il y a une différence fondamentale entre le marxisme et le religieux, c'est que le marxisme va se concentrer sur une étude du fonctionnement interne de la société et comment la morale va être liée à la fois au système de production, liée à la morale comme partie de l'idéologie, et à la fois à la lutte des classes. Le religieux va faire une approche beaucoup plus individualiste. Ce qui compte, c'est l'individu, comment il fonctionne, et ne va s'adresser que de façon indirecte au fonctionnement de la société, mais souvent de façon très iconoclaste, et souvent de façon contre le pouvoir. Si on prend le monothéisme dans son histoire, ce qu'il faudra qu'on refasse plusieurs fois, mais le monothéisme, une destruction du religieux et de l'idéologie au pouvoir. Et au profit, on parle déjà d'individus, déjà à l'époque de Moïse, à 3500 ans. Et toujours dans le christianisme, l'individu est très important, et dans l'islam aussi. C'est paradoxal parce que la religion est une construction sociale, le judaïsme, le christianisme, l'islam sont des constructions sociales et façonnent la société, mais ils la façonnent à partir d'un point de vue individuel. Et c'est là que c'est très intéressant, que ça implique de penser la complexité, c'est le fonctionnement de l'individu, on se concentre dessus, on le décrit, on donne des moyens pratiques à l'individu de se transformer, et c'est ça qui crée une nouvelle société. Et c'est absolument l'opposé du marxisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que les deux coexistent? C'est-à-dire qu'il est nécessaire, même dans la lutte des classes, même dans une pensée du monde comme un mouvement en vue de réorganiser la production, en vue de réorganiser l'idéologie, est-ce que le fonctionnement individuel proposé par le monodisme de restructurer les relations sociales sur une éthique, sur une pratique. Est-ce que quand on considère l'opposé, qu'est-ce que donne comme société ce comportement? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que quand on situe l'éthique monothéiste comme une façon de transformer la société, de s'opposer à l'État, de s'opposer aux religieux, et de donner un nouveau fonctionnement interpersonnel, dans quel sens ça?
Au mensonge, il faut des fois garder le silence. Ton esprit s'élance à la recherche de l'excellence. Le chemin de la guidée s'oppose à celui de l'errance. J'avance éclairé par la lumière de l'espérance. Le respect appelle au respect par expérience. J'apprends à écouter avec le cœur, car de là le parcours commence. Mon RAP aspire à la paix comme une romance. Sentimental, l'amour est monumental. Mentalité de survie, ma quête est transcendantale. A chacun son train de vie, chacun sa direction. Action, les jours passent, nouveau quai, nouvelle station. Brise la routine par la méditation. Manifestation, ma voix traverse les murs sans détruire les fondations. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence, vit le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. À la recherche de l'excellence, vit le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. La vie est un chemin de fer, il s'agit d'être sur les rails. À chacun son terminus, à chacun ses funérailles. Enfer et paradis, sérieux est l'affaire. Espère que les anges fassent partie de mon possible. Sur le trajet, on n'oublie pas de vivre aussi. Rêve de traverser le ciel, comme ivre aussi. Chante l'amour comme la Fettino. En osmose sur le circuit comme Valentino. 46 pour mon 45, une nouvelle étape. Rap, musique, vers le bien, je maintiens le cap. Trop de pièges dans la matrice, rares s'échappent. Je prie pour que bonne soit la destination. Entre ici bas et l'au-delà, j'ai fait mon estimation. L'or n'aura jamais l'aura de Malik Shabazz. Encerclé par la foi depuis mon âme, comme un robaz. Mon esprit s'élance à la recherche de l'excellence, vit le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise que la vie est un présent. Compte à la recherche de l'excellence, vit le présent, laisse venir le jour suivant. Survivant, les rêves s'atteignent en les poursuivant. Réalise.
Moi, je sais pas, t'as peut-être un commentaire.
Non, mais c'est vrai que c'est une grosse question. Mais maintenant, alors je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de. Parce qu'il me semble que dans la suite, en fait, la morale des sensualistes. Il prend. En fait, si tu veux, bon, attends, je vais reprendre un.
Oublie-le.
Je vais reprendre un. Je vais reprendre un extrait. Pour moi, alors, j'ai fait un commentaire et il me semble que. Justement, dans son enquête sur les théories morales qui l'ont précédé, Kropotkin, à un moment, il présente des philosophes. Les philosophes utilitaristes.
Ah oui.
Donc, il mentionne Bentham, John Stuart Mill, et un autre imprononçable pour moi, mais bref, c'est un russe. Et il me semble que s'il se réfère à ces philosophes, c'est pour montrer, justement, que le motif des actions humaines, c'est toujours la recherche du plaisir. Mais... Alors on peut tout de suite se poser la question, qu'est-ce que le plaisir? Ben, le plaisir, c'est un sentiment. Et un sentiment qui peut être déterminé toujours qu'à posteriori d'une situation. Jamais, si tu veux, toujours à posteriori d'une situation. Et je vais prendre un exemple. Si par exemple un ami me demande de l'aide et que le motif de mon action... Donc si je prends le motif de mon action... comme motif d'action, le plaisir, je vais devoir attendre d'agir, nécessairement je vais devoir attendre avant d'agir, de savoir si cette aide que je vais lui apporter va être une source de plaisir, moi ou non. Donc ouais, vous comprenez que là tout de suite on arrive à une problématique, c'est que, en gros, si tu me demandes de l'aide et que moi, pour moi, au lieu de prendre le bien comme principe d'action, je vais prendre le plaisir, je vais me demander est-ce que l'aide que me demande Zakaria va être une source de plaisir pour moi ou non.
Ouais.
Si elle est de plaisir, bah dans ce cas, je vais l'aider. Mais si, par exemple, elle va me demander du temps, d'investissement, elle va être une source de peine pour moi, et bah dans ces cas-là, je ne l'aiderai pas.
Oui, oui. Voilà, en tout cas, moi j'ai compris.
Voilà. Il en dit quoi, Kropotkin, de ça?
Bah, en fait, moi, je comprends un peu tout son développement, juste
ouais.
30 secondes. Hein. Je comprends tout son développement, question du plaisir, comme étant, en fait, voilà, qu'est-ce qui motive les actions individuelles et collectives des gens et ça répond, à mon avis, à une grosse question des idéalistes, qui prétendent que... la question du désintéressement, y compris dans ma démarche spirituelle, hein, ça m'a beaucoup questionné, ce truc-là, en fait. Est-ce qu'on agit de manière désintéressée? Alors, souvent, on dit, j'ai fait une sadara, j'ai donné... j'ai quelque chose, et en fait, la recherche dans les discours religieux, souvent, c'est la question du désintéressement. Faites-le, donner, sans que... Donner avec votre main droite, sans que votre main gauche le sache. Ça veut dire qu'en gros... Il y a un peu une recherche comme ça du désintérêt. Alors qu'en fait, ce que dit Kropotkin, c'est que non, en fait, y compris, en fait, il prend la question du plaisir ou de l'intérêt comme étant quelque chose de tout à fait.
On parle de plaisir, mais c'est surtout l'utilité et donc l'intérêt. En fait, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, en gros, si cette action est une source de plaisir, ou si elle va m'être utile, je vais t'aider.
Ouais.
Au contraire, si elle est une source inutile pour moi, eh ben je vais pas t'aider. Donc finalement, en bout de chaîne, il y a toujours l'intérêt. Et si le plaisir vient en premier en tant que motif de l'action, on aboutit nécessairement à une morale qui est égoïste. Qui est individuelle, subjective et égoïste.
Mais en fait, justement, c'est ce qu'il veut éviter. En gros, il a conscience des limites du terme plaisir. En fait, il prend le temps quand même de le définir. Il prend le temps de le définir, il fait des circonvolutions autour, il essaie de dire, voilà, de donner du contenu au terme. Il comprend, il dit que c'est un détournement il lui donne beaucoup plus de sens que ce qu'on donne dans le commun, on va dire. Il aime moins le mot intérêt, donc c'est pour ça qu'il utilise plutôt le plaisir, mais il a conscience que dans un cadre de, je sais pas, tu pourras peut-être parler du market set, hein, mais c'est applicable aussi bien quand on fait souffrir les gens que quand on donne en fait là où c'est assez perturbant, je vais prendre une image, c'est j'aide quelqu'un dans la rue, je lui donne 2 euros parce que il a besoin de, je sais pas, il a faim, hein, ou je lui donne mon manteau parce qu'il a froid. Et ben en fait, cette question de, en fait, je lui fais plaisir, du coup moi je me libère aussi, donc ça souffrir, un peu moins de souffrance chez cette personne là va m'ôter une partie de sa souffrance, de ma souffrance aussi, donc je vais agir continuellement comme ça par un peu de manière mécaniste, quoi. Mais en fait, le désintéressement pur n'existe pas. C'est une thèse intéressante, je veux dire.
Le problème en disant ça, c'est que on arrive à un problème, c'est qu'on pourra plus, on peut plus poser la possibilité d'une morale universelle. Parce que si c'est toujours le plaisir qui vient en premier, tu comprends que finalement, le plaisir, c'est toujours quelque chose d'individuel, de subjectif. Et donc, à aucun moment, même si tout le monde agit de cette manière, le plaisir de Zakaria n'est pas le plaisir de Saber. Tu comprends ?
Oui, mais justement, alors là, il y a un truc, c'est que le plaisir, maintenant, avec les neurosciences, on peut aussi le décrire de façon réaliste et de façon biologique. Et ça peut être des décharges d'adrénaline, ça peut être de la dopamine, de l'ocytocine. Donc, au-delà de ça, au-delà juste de parler des molécules, on voit dans le fonctionnement général du cerveau, il y a des actions qu'on a héritées de façon génétique, c'est-à-dire sur une construction sur des millions d'années, on a hérité des récompenses sur un certain nombre de comportements qui sont déjà chez l'animal, qui sont encore chez nous. Et le plaisir, on peut considérer ça comme quelque chose d'immédiat, ce qui est intéressant, c'est qu'après, là, il y a un bouquin qui est sympa, c'est le bug humain, sur lequel même ça vaudra le coup de revenir. C'est intéressant parce que on arrive à avoir des connaissances qu'on a de façon littéraire, de façon scientifique, de façon religieuse dans le temps. On peut maintenant les décrire par rapport à des fonctionnements internes. C'est un peu... le bug humain va faire un peu l'aspect un peu même de révélation que l'œuvre de René Girard, où on reprend des choses qui sont connues dans la culture et on trouve que ça correspond en fait à une analyse fine de la biologie. Et on peut recorriger a posteriori la psychologie avec les nouvelles connaissances. Et des concepts qu'on avait avant, qui ont été élaborés par la recherche sur l'humain de façon empirique, on peut les retrouver de façon biologique. Et donc les réaffiner, donc revenir en arrière et recorriger tout ce qu'on a établi juste là. Et là donc il y a quelque chose d'immédiat, le plaisir, comment il va nous procurer des décharges, mais vous avez parlé aussi de conséquences directes et prévisibles, c'est-à-dire je sais que si j'aide mon pote, il va me réaider. Ça peut être un intérêt personnel, mais ça peut être aussi ça me fait plaisir d'aider mon pote.
Ça fait plaisir d'aider.
Il y a des gens qui sont comme ça. Mais là où c'était plus intéressant dans la culture, et où René Girard montre que c'est le religieux construit déjà ça de façon empirique, c'est qu'on, parce que la culture est une construction historique, elle va plus loin que les conséquences immédiates ou secondaires et prévisibles. On a déjà vécu des effondrements de société, on a déjà vécu des catastrophes, on a déjà vécu des conflits innombrables, et donc il y a un savoir qui n'a pas été emmené, rationalisé jusqu'au bout, mais il y a un savoir dans la culture de si je fais ça, si je veux le même jouet que mon pote, ça peut finir sur une guerre. Et ça, je le dis de façon simple, mais il y a d'autres comportements, beaucoup de comportements, en particulier si j'ai René Charles le mimétisme, juste j'imite les gens autour de moi, ça finit mal. On ne sait pas, on ne peut pas le prévoir, mais les religions primitives, les religions monothéistes, plus tard la culture, portent encore, plus tard la littérature, portent encore ce bagage-là. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'héritage historique. C'est que quand on suit une morale qui est déjà complète, même si on va aller chercher chez quelqu'un d'autre, si on va aller prendre chez les bouddhistes, si on va la prendre dans le Tao, si on va le prendre n'importe quelle mémoire vieille, on dirait ancestrale, elle porte des choses qui ne sont pas prévisibles dans les commandements qui sont donnés. Et on revient encore à la complexité. Éviter un petit comportement qui semble anodin peut avoir une conséquence de masse. On parlait tout à l'heure du smartphone. C'est pas seulement est-ce que le smartphone c'est bien, est-ce que je peux prévoir que ça m'amène une catastrophe ou pas. C'est quelle est une société avec smartphone, quelle est une société sans smartphone, quelles sont les divergences. C'est un phénomène nouveau, on n'a pas la connaissance. Sur tous les phénomènes anciens, on a une conséquence non rationnelle, non conscientisée, non intelligibilisée, mais qui est présente.
Alors peut-être pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est la question, alors j'ai une question à vous poser, dans ce que vous avez compris de son développement, il y a une tentative chez lui de et biologiser ou est-ce qu'on peut parler par exemple de morale naturaliste chez lui, dans le sens où il va, je vous lis un passage, c'est sur laquelle il prend l'exemple de la safétida, parce que c'est vrai que une des réponses que vont dire certains religieux, c'est de dire une morale en dehors, point de salut en dehors de la Bible, point de salut en dehors du Coran, point de salut en dehors de la Sunna, etc. Parce qu'en fait, une morale qui soit une morale qui soit pas religieuse est impossible. En fait, un projet d'une morale matérialiste est pas possible, et a fortiori naturaliste.
Pourquoi ?
Parce que les animaux, par ailleurs, font n'importe quoi, parce que c'est considéré comme... Enfin, je veux dire, c'est la loi de la jungle, il y a des animaux qui bouffent également. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de morale possible à tirer. Or, si ce n'est ad hoc, hein, regardez comment ces belles images là, qu'on partage sur Facebook, ce bel animal qui... alors là, il faudrait lire l'entraide pour le coup de Kropotkin, mais des trucs très naïfs sur les animaux s'entraident par ailleurs, mais où de toute façon, une morale en dehors du matériel et du naturel est impossible. Alors, je sais plus c'est dans quel passage... Donc il prend l'exemple d'une plante, la Safetida, à un moment donné, c'est toujours dans la morale anarchiste, hein, et il dit, regardez bien, dans la nature, et puis il fait un tas d'exemples comme ça. Il fait pas juste du biais de confirmation, hein, il développe quand même autour de ça. C'est de dire, il y a quand même du bien et du mal biologiquement. Exemple, globalement, tout le monde, si on lui soumet la safetida, qui est une plante avec une odeur putride, je crois, ou un goût putride, eh bien tout le monde trouvera que ça pue. Hein, trouvera que ça pue et que c'est mauvais. Okay. Et donc, de manière générale, il y a bien quand même une vérité biologique définitive en termes de bien et de mal. Là, on peut quasiment dire que c'est bien ou que c'est mal.
Là, ça fait d'identité, moi, je pense quoi.
Ah, je sais plus comment c'est développé. Il me semble que c'est dit, restez juste sur la question putride ou pas. Ah, faudrait que je retrouve le passage. Et voilà. Allez, je le dis rapidement. Mais que dire de ces révolutionnaires qui, depuis le siècle passé jusqu'à nos jours, chaque fois qu'ils entendent la question naturelle des actions humaines, la théorie de l'égoïsme, si l'on veut, s'empressent d'en tirer la même conclusion que le jeune nihiliste dont nous parlions au début et qui s'empresse de crier à bas le moral. Parce que c'est vrai qu'il parle des démarches nihilistes au début, de l'impératif kantien, je crois que tu peux t'en parler, mais est-ce que je serai moral ? Voilà. Et que dire de ceux qui, après s'être persuadés que l'homme n'agit d'une manière ou d'une autre que pour répondre à un besoin de sa nature, s'empressent d'en conclure que tous les actes sont indifférents, qu'il n'y a plus ni bien ni mal. Elle a potentiellement tendance nihiliste.
Hein. Oui, c'est ça.
Que sauver au risque de sa vie un homme qui se noie ou le noyer que pour s'emparer de sa montre sont deux actes qui se valent. Hein, il n'y a plus de morale. Donc, peut-être question au postmoderniste. Est-ce que c'est plutôt dans ces eaux-là qu'il navigue, quoi. Quand il n'y a plus du tout de lien avec le biologique, quoi. Que le martyr, donc, mourant sur l'échafaud pour avoir travaillé à affranchir l'humanité, et le petit coquin volant ses camarades, se valent l'un et l'autre, puisque tous les deux cherchent à se procurer un plaisir. Point d'interrogation. Si encore ils ajoutaient qu'il ne doit y avoir ni bonne ni mauvaise odeur, ni parfum de la rose, ni puanteur de la safetida, parce que l'un et l'autre ne sont que des vibrations de molécules, et donc il n'y a pas de bon ni de mauvais goût, parce que l'amertume de la quinine et la douceur d'une goyave ne sont encore que des vibrations oculaires. Et donc au final, tout ça, ça se vaut. Qu'il n'y a ni beauté, ni laideur physique, ni intelligence, ni imbécilité, parce que beauté et laideur, intelligence ou imbécilité, ne sont encore que des résultats de vibrations chimiques et physiques s'opérant dans les cellules de l'organisme. S'ils ajoutaient cela, on pourrait encore dire qu'ils radotent, mais qu'ils ont au moins la logique du fou. Mais puisqu'ils ne le disent pas, que pouvons-nous en conclure ? Alors là, il donne sa réponse, et en partant de Mandeville et en faisant une critique aussi de la fable des abeilles, là.
Oui.
Mais en tout cas, ça pourrait être une critique qui est faite, c'est une critique qui est faite de manière générale, qui est adressée aux socialistes, tout le socialisme matérialiste, de manière générale, qui est de dire, bah, en fait, vous êtes en train de complètement bousiller la morale, et vous faites comme si tout se valait. Alors qu'au final, quand on regarde bien les textes fondateurs de marxistes, en fait, hein, et des anarchistes, c'est tout le contraire. En fait, il y a une haute exigence de produire, de dire, attendez, on va pas faire une déconstruction qui, par ailleurs, en fait, bazarderait complètement tout, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas en plus monter, en fait, en exigence morale
Là, il dit et il fait un truc qui est très intéressant, c'est, il disait dans ton texte aussi, ça va, hein, c'est... il dit qu'une fondation nouvelle de la morale devrait aller rechercher, en fait, jusqu'à l'animal, jusqu'au minéral.
Ouais.
Et c'est intéressant parce que quand tu dis... justement, les animaux font n'importe quoi. Les animaux font pas n'importe quoi. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a un équilibre qui s'institue.
Qui s'établit.
Et l'équilibre qui fait que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne plus, ça s'effondre. Et donc, c'est pas une histoire de mal ou de bien. C'est qu'à un moment, ça s'effondre, et la vie fonctionne plus. Donc, c'est intéressant si dans les premiers textes montés, il n'y a pas de question de bien ou de mal. On parle de mort et de vie. Et ce qui compte, c'est de faire progresser le vivant. C'est très présent encore dans le Coran, qui arrive tout à la fin du monothéisme. C'est le Coran parle de la vie et de l'intelligence.
Ouais.
Et Dieu fait nourrir la vie et l'intelligence. Et c'est ça qu'on doit servir.
Donc toujours plus de vie, quoi.
Donc cette structure équilibrée, elle a des fonctionnements internes. Et donc, c'est pas que des molécules. Ces molécules, elles ont une fonction. Et la fonction de ces molécules, et quand on les utilise à mauvais escient, par exemple quand on voit maintenant le plaisir immédiat contre des choses qu'on est capable de faire beaucoup mieux que le plaisir immédiat, l'humain est capable d'aller plus haut, de transcender un peu même son acquis biologique, de lutter contre pour faire mieux que l'équipe produit. Et même pour redire après, il y avait un bouquin très intéressant sur la culture animale chez Champ. Il y a déjà une culture animale, d'où émerge la faim. Et je ne sais pas s'il y a une morale animale, mais il y a des comportements qui sont répétés, il y a des comportements qui sont interdits. Et donc, il y a une espèce de structure du minéral, il y a une structure du vivant, et il y a une structure de la culture, et c'est de là que naît l'intelligence et la conscience après. Donc, il n'y a pas de nymphes, il y a un fonctionnement historique, et on revient à l'hypocrisie de la morale. Quand la morale, si on produit une éthique qui permet d'accompagner et dépasser ça, c'est intéressant. Si on a une morale qui veut nous faire régresser pour appuyer un pouvoir, faut absolument s'y opposer. Ma vie est en désordre au milieu de la tornade. Tu viens te repentir et tu me fais la morale. Ok,
jure que ton ciel ne connaît pas de limite. Jure que tu poursuis tes rêves à 30 ans comme à 8. Jure que tu rêves pas plus que tu ne travailles. Jure que t'as jamais lâché tes potes au cœur de la bataille. Jure que tes paroles ne cachent pas que les mots. Jure que tu souhaites bien cette force promise à tes bros. Jure que t'as jamais cédé au stress. Jure que t'as toujours suivi ton plan sans le réécrire sans cesse. Toi qui jures tout faire pour aider les gens. Jure que ça tient même s'ils s'en sortent à tes dépens. Jure que chaque jour tu as su faire. Jure que t'as jamais envisagé le mauvais usage d'un cutter. Jure que t'as jamais jeté tout le monde dans le même sac. Jure que t'as jamais penché pour des idées bien sales. Jure que t'as eu raison d'être fier. Jure que face à ton miroir t'as jamais ressenti de goût amer. Jure que tu t'es pas voilé la face. Jure que derrière ce regard de tueur t'es pas en train de flipper ta race. Jure sur les tiens maintenant, la main sur le cœur. Et sur les miens en même temps, je vais te montrer un monteur. Retiens.
Je tourne au ralenti, j'ai peur avant l'orage. Tu viens te repentir et tu me fais la morale. Ma vie est en désordre au milieu de la tornade. Tu viens te repentir et tu me fais la morale.
Oui, donc il y a pas, c'est le contraire d'un relativisme, ça introduit pas dans le relativisme normalement, absolu quoi.
Non.
Il y a plus tout se vaut et tout, toutes les options sont possibles quoi.
Ouais. Après, justement là, par rapport à ce que tu disais Antoine, moi je pense aussi qu'il y a un renversement en fait par rapport aux origines de la morale. Je parle des fondements.
D'accord.
En fait, pour moi, il opère une distinction en fait entre la théorie de la morale religieuse et la théorie de la morale utilitariste. Le religieux, lui, il prend pour principe d'action l'inspiration divine.
Ouais.
C'est donc dans les textes révélés que le religieux, il va tirer la loi divine qui va lui servir de principe d'action.
Ouais.
D'accord.
Avec un avantage.
Voilà. Mais selon moi, je pense pas. Tel que Kropotkin présente les choses, à partir du XVIIIe siècle, pour lui, il y a vraiment une rupture, c'est-à-dire que les philosophes, en fait, ils observent, et là, observation, on parle d'observation scientifique, que toute la race animale, et dans la race animale, on inclut les hommes, elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle se donne à elle-même sa propre loi. Donc, la race animale, elle ne va pas chercher le motif de son action dans des textes révélés, mais finalement dans un sentiment qu'elle éprouve toujours a posteriori d'une situation. Est-ce que c'est utile? Si c'est utile, alors c'est bien. Et si c'est nuisible, alors c'est mauvais.
Ouais.
Tu vois? Mais c'est toujours, si tu veux, ça tu peux le savoir toujours qu'à posteriori.
Mmh.
À posteriori de l'action.
D'accord.
Tu comprends? Bah, jamais tu pourras savoir avant l'action. Jamais tu pourras savoir si ça va être utile ou...
Donc ça peut être que des projets de morale pratique, quoi.
Pratique, et donc finalement, en fait, finalement, en fait, lui-même le dit. C'est en fait une théorie morale qui est égoïste. Et attends, je vous lis un passage, il dit... L'idée du bien et du mal n'a ainsi rien à voir avec la religion ou la conscience mystérieuse, c'est un besoin naturel des races animales. Et quand les fondements des religions, quand les fondateurs des religions, les philosophes et les moralistes nous parlent d'entité divine ou métaphysique, ils ne font que ressasser ce que chaque fourmi, chaque moineau pratique dans leur petite société. Est-ce utile à la société? Alors c'est bon. Est-ce nuisible? Alors c'est mauvais.
Oui,
tu vois. Finalement, en fait, on peut se dire, pour le religieux, le critère de la morale, il vient de l'extérieur. Il vient d'un texte révélé. Il puise les principes qui vont être d'agir.
Quand tu parles d'un religieux, tu parles d'un croyant ou
D'un croyant qui finalement lit les textes religieux et trouve dans ces textes les principes qui vont lui
permettre de
guider sa vie. Exactement. Mais pour les philosophes, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils observent justement le comportement de cette race animale et à partir de là, c'est une méthode qui est inductive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, la religion, on peut dire que sa morale, elle est hétéronome. Ouais. Mais ouais, il y a un renversement en fait par rapport à la méthode, et les religieux tirent leur loi d'une interprétation des textes révélés, tandis que les philosophes du XVIIIe siècle, eux, ils observent le comportement de la race animale et en tirent une loi générale et universelle. Donc
Notamment la guerre de tous contre tous.
Exactement, et non. Oui, chez les libéraux, mais ouais. même chez Kropotkin, c'est tout ce qui est utile à la société est bon, et tout ce qui est nuisible est mauvais. Tu vois, donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les philosophes, en fait, ils rassemblent les faits qu'ils trouvent dans la nature, ce qu'ils observent chez la race animale, et ils la formulent sous une loi générale, universelle.
Là, il y a plein de trucs intéressants.
Ouais.
Tu veux, excuse-moi.
Vas-y, non, c'est bon.
L'idée qu'il n'y a pas de mal. Qu'en fait, on constate a posteriori qu'une action conduit à la mort, à la destruction de la société, ou à la souffrance de l'autre.
Ouais.
Et en fait, qu'est-ce qui va définir le mal,
c'est le conséquentialisme.
C'est la conscience.
Quelles sont les conséquences au niveau des individus, des
la mort, et des sociétés. La mort, la souffrance.
Ouais.
Et donc, c'est pas bien, regardez, la voisine va encore dire qu'on a fait des conneries. Non, ça, faut pas le faire. Ça, faut pas le faire, parce que, de façon empirique, ça va.
Ouais.
Et à partir de... donc, toi, tu... Il y a une tentative, moi c'est comme ça que je comprends avec l'utilitarisme, c'est on reprend tout l'héritage, et on reprend tout le fonctionnement, et on va dire, voilà, on peut refaire une morale, on peut reconstruire une éthique. Parce que moi, la morale, je vois plus comme des choses qu'on dit un par un, point par point, en disant ça va, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et un peu le grand tiraton. Une éthique, tu vois ça comme quelque chose de plus structuré, où c'est pas seulement des actions prises individuellement, c'est on pense un fonctionnement structuré de la société et de l'individu, et vers où ça va, avec des objectifs, plutôt que c'est bien, c'est pas bien.
Il me semble que c'est pas la démarche de Kropotkin, mais... parce qu'il faut, il faut relier ça à ce qu'il a fait, à ce qu'il développe dans l'entraide, par exemple. Où en fait il est en proie à des développements absolument. Enfin, je veux dire, c'est absolument affreux. Ce que développent les libéraux, c'est à partir du darwinisme, de dire bah, vous voyez bien, les animaux finalement développent même des classes sociales, ils se bouffent entre eux, entre les plus forts bouffent les plus faibles. Et ce que dit Kropotkin en les dépassant sur leur scientifisme ou scientificité, il dit non, regardez bien, c'est qu'en fait il y a des principes biologiques qui sont pas juste la compétition. Et loin de là, en fait, il dit, ce qui gouverne assez massivement la nature, c'est en fait, c'est les principes d'entraide au sein d'une espèce et entre espèces. Et là, en fait, on n'est plus juste dans le truc un peu naïf et béat du monde des licornes, c'est il y a bien quand même un principe qui gouverne le règne animal, qui est plus de vie entre les espèces et dans la limite des besoins en fait qui sont propres à chaque espèce. Voilà. Et en fait, on va pas avoir de, je sais pas,
Mais c'est vrai que
ça outrepassera pas ça, en fait.
Non, mais
c'est assez fondamental, c'est de dire, bah, regardez bien quand même, il y a des grands principes Et ça, ça sert un projet qui serait celle d'une éthique, tu vois. Qui serait pas juste pour, à mon avis, moi j'ai pas compris chez Kropotkin d'un truc, une reformulation d'une petite d'une morale à la petite semaine, là, où c'est, t'as des hasanat et t'as des sayat, quoi. Où ça c'est bien et ça c'est mal. Mais c'est pas comme ça que je l'ai compris, pour le coup, son principe. Je t'ai coupé, mais pour refermer la parenthèse, quoi.
Non, mais c'est important ce que tu viens de dire, parce que là, on revient à de la lutte des classes dans le combat pour la morale. On a échappé à ce truc-là pendant longtemps, mais les utilitaristes, quand ils vont refaire leur morale, ils le font. Ils pensent être universalistes, mais ils vont envoyer quelque chose qui est situé socialement. Okay ? Et qui dit celui qui va les écouter, que la morale utilitariste, elle n'a pas un rôle dans la lutte des classes. Ouais. Là, ce que tu dis, le combat de la bourgeoisie anglaise qui veut prendre le darwinisme comme une légitimation de son pouvoir, la légitimation de la guerre de tous contre tous, et le principe de sélection naturelle comme, allez, rendez-nous notre pouvoir, on va vous bouffer la gueule, ouais. Kropotkin il arrive et il dit non, moi je trouve dans la nature la solidarité. Ouais. Est-ce que ça se trouve les deux raisons par rapport à la biologie? Mais par rapport à la lutte des classes, on est obligé de prendre le parti de Kropotkin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la solidarité, parce que ça va. Là où j'ai un peu du mal, mais c'est dû aussi à l'hypocrisie de la morale, c'est que rejeter par principe le monothéisme comme un ami imaginaire et comme quelque chose qui est sans fondement, c'est refuser de penser que le monothéisme a une histoire.
C'est une
construction historique qui a des fondements en lui-même.
C'est pas que la. Moi, ce que je voulais dire, c'était pas que la morale religieuse est sans fondement. C'est que lorsque le religieux lui tire ses principes, encore une fois, ses principes d'action, des textes révélés, sa morale, elle est. Il y a l'autonomie c'est celui qui se donne même sa propre loi, et l'hétéronome c'est celui qui finalement va chercher les lois de son action dans une source qui est extérieure à sa volonté.
Oui, mais
en fait, il y a toujours le risque dans la construction du religieux de toujours avoir besoin du prêtre qui te dit sans arrêt ce qu'il faut faire.
Ouais.
En fait, il est là le problème.
Ouais. Voilà, et du coup, c'est toujours, si on suit un philosophe, c'est toujours hétéronome. Si on suit un prêtre, c'est hétéronome.
Ouais, oui.
En fait, c'est pas un dieu qu'on suit, c'est un être humain. Et du coup, autonome, ça veut dire que la personne s'empare. Et ça veut dire que dans un deuxième temps, on s'empare collectivement pour réfléchir à ce qu'on fait. Comme on est en train de faire ici.
Mais finalement, même la morale en fait de Kropotkin, on peut même en parler maintenant. Le principe de la morale, c'est de la solidarité. Et la solidarité, ça, c'est un principe c'est une morale qui est, qu'on peut dire, autonome. C'est-à-dire, la race animale qui vit en société et qui se pose. La question, tout simplement, est-ce que c'est utile pour le groupe? Alors, dans ces cas-là, c'est bon. Et si c'est inutile ou nuisible, alors c'est mauvais.
Ouais, mais normalement,
Tu vois?
Normalement, dans cette formulation-là, dans ce qu'essaie de faire comprendre de ce que j'ai compris, c'est normalement, suivant cette proposition philosophique, on peut plus. Normalement, on a du mal à dériver et à reproduire de la morale anti-morale, quoi.
Ouais. Mais il n'y a plus d'autorité.
Enfin, il y a un truc où ça va beaucoup plus loin que ça aussi.
Ouais.
Quand il parle d'autonomie, c'est qu'il ne va pas seulement parler d'autonomie, c'est-à-dire d'autonomie par rapport à « je vais faire ma propre morale », il parle aussi d'autodétermination, comme quelque chose de propre à l'être humain.
Ouais.
Et là, lui, il arrive jusque-là. Lukács va arriver jusque-là. Pour Lukács, la finalité, c'est l'autodétermination du genre humain. C'est-à-dire, pas de l'individu, ou de l'individu qui est rendu possible, que parce qu'en tant qu'espèce, on y arrive. Et nous, on l'avait trouvé aussi dans l'islam, en tant que la finalité, c'est que l'humain prenne le rôle de Khalifa sur Terre, c'est-à-dire de c'est l'humain qui va déterminer l'avenir, prendre responsabilité sur le vivant, sur la croûte terrestre, et devenir libre de choisir l'avenir. Et du coup, tout le monde, arrive, on ne parle pas seulement d'autonomie de, comme capacité, on arrive à la conscience. On peut échapper à nos déterminismes animaux, sociaux, de lutte des classes, ou est-ce que par la lutte des classes, si la classe travailleuse prend le pouvoir, on arrive à une possibilité d'autodétermination de l'homme dans la société et de la société humaine sur la terre, dont on peut prendre la responsabilité. Et là, il y a une finalité qui est beaucoup plus grande. Peut-on choisir à un moment nos propres finalités? Peut-on choisir où c'est qu'on emmène la terre? Peut-on choisir en tant qu'individu comme on va vivre par rapport au reste?
Ok. Ouais. Est-ce qu'il y avait une partie que tu voulais aborder
Ouais, après moi j'aimerais bien peut-être avoir un peu aussi votre point de vue sur tout simplement. En fait, on a déjà parlé, la mort anarchiste, c'est quoi finalement? C'est les hommes en société qui doivent finalement se plier au principe de la solidarité. Qui doivent être solidaires entre eux pour pouvoir, plutôt que justement, comme le pose le darwinisme social, c'est celui qui sont les plus aptes qui survivent au sein de la société, donc il y a une concurrence effrénée entre les individus. Non, c'est. Puisque Kropotkin observe dans le comportement des animaux qu'il y a une solidarité entre eux, finalement ces observations qui est générale et universelle, c'est le principe de solidarité, et donc c'est vers ce principe que la société doit être organisée, doit tendre, et c'est comme ça que les rapports entre les individus doivent être organisés. Ça, c'est un peu de résumer la thèse de Kropotkin.
Je pense qu'il faudrait, à mon avis, ça demanderait au moins une autre
interview. Oui.
Et notamment pour je repense à l'intervention. Il faudrait peut-être boucler. Alors pour le coup, je suis désolé, mais. Là, pour le coup, ce qu'a fait Bakounine avec dans Dieu et l'État, c'est pareil, c'est assez bien structuré, je trouve, et ça répond à. Ça pose des bonnes questions, là. Parce qu'il va beaucoup plus loin que Kropotkin sur la question de ce que reproduisent, y compris les révolutionnaires, en termes de cohérence, quoi. Il va jusqu'à la question de la République, et in fine, par exemple, la dictature des sciences. Il pose la question de la dictature des sciences aussi, Bakounine. C'est-à-dire qu'il va jusque-là, il dit gouvernement scientifique, d'experts, c'est encore un problème. Une fois qu'on arrive à ce stade-là du développement des sociétés, quoi. Alors je sais plus pourquoi ça me faisait penser à ce que tu disais juste avant, mais. C'est un peu difficile de faire tout le tour là, en trois quarts d'heure. Je pense qu'il y a plein de questions encore qu'on n'a pas vues, mais. Assez fondamental là, dans la morale anarchiste, mais à mon avis, ce qu'on peut peut-être tirer quand même, c'est cette idée de dire il y a quand même bien des constantes, il y a des régularités dans la nature. Ça a l'air quand même c'est clair une philosophie naturaliste. En gros, dire je vais pas répéter ce qu'a dit Antoine, mais il y a quand même bien des principes généraux. Qui sont un truc un peu vitaliste, plus toujours plus de vie, quoi. Et donc toujours plus de vie, potentiellement, c'est quand même mieux pour nous. Hein, c'est un peu imbriqué dans notre code génétique aussi, c'est de dire, quand même, finalement, on est quand même fait pour plus d'harmonie, entre guillemets, je sais pas trop ce mot-là, mais il y a un parti pris qui serait de dire, finalement, plus de vie et plus de bonheur individuel et collectif, c'est que ça a l'air d'être quand même la voie la meilleure pour pouvoir vivre.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est même plus qu'un parti pris, c'est que c'est encore une fois, je reviens sur ce terme d'observation, là il utilise une méthode en fait, pour poser en fait sa morale, c'est que c'est la méthode inductive, voilà, C'est à partir de l'observation, on en tire une loi générale. Ouais.
En reprenant les traditions, parce qu'il fait un inventaire des traditions philosophiques, ouais. Il parle d'impératif kantien, ouais. Voilà. Tu le sais.
Oui, ouais, tout à fait, impératif catégorique. Bon, ouais, mais sur il a fait une critique, mais.
Ouais. Mais parce que quand
il dit que quand t'as pas de. Il dit que quand t'as. Pose son impératif moral sans fondement, et pourtant, je sais quand il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la solidarité aussi, c'est de considérer l'autre comme une fin en soi. Et ça, en fait, c'est déjà presque un fondement. Et on peut, je l'avais rapproché déjà avant dans un article sur le réalisme. C'est-à-dire quand Nicolas Hartmann parle d'un temps sur recta, c'est-à-dire considérer la réalité comme une réalité objective. On considère l'autre comme une fin en soi, on considère la réalité comme une réalité objective. Et ça nous inscrit dans une reconnaissance du monde et de la structure du monde comme quelque chose qui existe, dans laquelle on s'insère. Et c'est en s'appuyant sur cette connaissance qu'on peut agir. Et c'est en s'appuyant sur... C'est plus que la vie, on a vu l'objectif de l'éthique. C'est, une fois qu'on a formulé les règles de fonctionnement d'une société, le fonctionnement de la société devient visible, on commence à pouvoir choisir, donc il commence à pouvoir y avoir une conscience. Et cette conscience peut en retour critiquer la morale, critiquer l'éthique et en proposer quelque chose de nouveau. Et donc c'est pas seulement la vie, c'est l'intelligence, et au-delà de l'intelligence, l'intelligence permet la conscience, donc le choix. Et ça n'existe pas, je pense, dans le monde minéral.
D'accord.
Et peu dans le monde animal, et donc on a une responsabilité humaine énorme qui est de ce choix. Et c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui par rapport à la crise écologique. On sait ce qui se passe.
Et on ne fait pas le bon choix.
On sait ce qu'il faudrait faire, mais à cause de la lutte des classes qu'on perd tout le temps, on n'a pas la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut faire.
Peut-être du coup pour conclure, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps là, c'est la toute fin de la morale anarchiste, où en fait ça fait un moment que j'avais pas lu ce texte, mais où quand même ça répond à des... je fais quoi? Comment est-ce que j'agis tous les jours? Il pose cette question là en fait, de manière assez responsable, je trouve. Il va pas feinter quoi. Et nous voilà donc, dit-il, enfin au bout de notre étude. Il y a des époques, avons-nous dit, où la conception morale change tout à fait. On s'aperçoit que ce que l'on avait considéré comme moral est de la plus profonde immoralité. Ici, c'était une coutume, une tradition vénérée, mais immorale dans le fond. Là, on ne trouve qu'une morale faite à l'avantage d'une seule classe. Sous-entendu, la bourgeoisie, les puissants, etc. On les jette par-dessus bord et l'on s'écrit, à la façon des nihilistes, « Abat la morale ». On se fait un devoir de faire des actes immoraux. Et donc je serai immoral, dit-il dans le texte à un moment donné. Il continue, saluons ces époques, ce sont des époques de critique, elles sont le signe le plus sûr qu'il se fait un grand travail de pensée dans la société. C'est l'élaboration d'une morale supérieure. Ce que sera cette morale, terminé l'étude de l'homme et des animaux. Et nous avons vu là-bas les idées des masses et des penseurs. La morale n'ordonnera rien, elle ne sera pas prescriptive. Elle refusera absolument de modeler l'individu selon une idée abstraite, comme elle refusera de le mutiler par la religion, la loi et le gouvernement. Elle laissera la liberté pleine et entière à l'individu, donc ce que tu disais sur la question de l'autonomie et la responsabilité, quoi. Elle deviendra une simple constatation des faits, une science. Et cette science dira aux hommes, si tu ne sens pas en toi la force, si les forces sont justes, ce qu'il faut pour maintenir une vie grisâtre, monotone, sans force, impression, sans grande jouissance mais aussi sans grande souffrance, eh bien tu tiens tant au simple principe de l'équité égalitaire. Principe de l'équité égalitaire. Dans des relations égalitaires, tu trouveras à tout prendre la plus grande somme de bonheur possible étant donné tes forces médiocres. Mais si tu sens en toi la force de la jeunesse, si tu veux vivre, si tu veux jouir de la vie entière pleine débordante, c'est-à-dire connaître la plus grande jouissance qu'un être vivant puisse désirer, sois fort, sois grand, sois énergique dans tout ce que tu feras. Sème la vie autour de toi. Remarque que tromper, mentir, intriguer, ruser, c'est t'avilir, te rapetisser, te reconnaître faible d'avance, faire comme l'esclave du harem qui se sent inférieur à son maître. Fais-le si cela te plaît, mais alors sache d'avance que l'humanité te considérera petit, mesquin, faible et te traitera en conséquence. Ne voyant pas ta force, elle te traitera comme un être qui mérite la compassion, de la compassion seulement. Ne t'en prends pas à l'humanité si toi-même tu paralyses ainsi ta force d'action. Il conclut, sois fort au contraire. Et une fois que tu auras vu une iniquité, que tu l'auras comprise, une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée par un autre, révolte-toi contre l'iniquité, le mensonge et l'injustice. lutte. La lutte, c'est la vie d'autant plus intense que la lutte sera plus vive. Et alors tu auras vécu, et pour quelques heures de cette vie, tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais. Lutte pour permettre à tous de vivre de cette vie riche et débordante, et sois sûr que tu retrouveras dans cette lutte des joies si grandes que tu ne t'en trouverais pas de pareil dans aucune autre activité. C'est tout ce que tu peux dire, c'est tout ce que peut te dire la science de la morale. À toi de choisir. Et c'est comme ça qu'il conclut. À toi de choisir. Ouais. Donc, bon, je pense qu'on pourra, faire des liens ultérieurement dans une autre discussion, notamment autour de Dieu et l'État, notamment autour de la question de ce qu'on a déjà développé avec Bégodeau et le gros point d'interrogation que pose Bégodeau sur finalement, y a quand même des choses à explorer dans les traditions religieuses. Dans ce qu'on a pu dans ce qu'on peut développer sur le site autour des textes entre dialectiques entre les différents monothéismes et puis on peut rester là-dessus.
Ouais. Allez. Très bien.
Allez, à la prochaine.
Levez la main droite et dites je le jure. L'eau douce polie même les cœurs les plus durs. Même les crados sont mis à vendre de la pure. L'arrière en trois dimensions finit en quatre murs. La raison funèbre sonnera l'amnistie. La balistique renseigne sur leur fartitique. J'mets gonfler le visage de l'ennemi et les statistiques. Son charisme toute la violence artistique. J'écris depuis que j'ai fait le don de l'innocence. Les actes et les paroles c'est que des non-sens. On t'insulte gratuitement et l'on dans l'offense. J'prends le taureau par la corne d'abondance. Avoir des valeurs c'est tellement démodé. Y'a des fins à l'ombre, y'a des fins à l'audé. Les armes sont sorties, les livres sont fermés. Est-ce l'insomnie ou les flammes qui vont nous cerner? Parle pas du crime armé à l'échelle sociale. T'as la langue pendue comme le traître à Sosa. Même le soleil n'éclaire pas toute la planète. Brosso mon prochain fit sur le darknet. C'est la haute couture avec des points de fissure. J'crois pas être le meilleur négro, j'en suis sûr. Le bruit et l'odeur, la racaille au tertiaire. Des porcs en costume cintré qui parlent salissure. Le buzzer, signer, acheter des streams. L'art de rue contre la lâcheté de l'industrie. Je veux tirer les ficelles de ces marionnettes. Du marionnettiste, de sa pouffe en string. Yeah.